Bonjour, bienvenue dans votre émission Histoire et mémoire sur Radio Grand Ciel. Comme chaque mois, l'émission vous dévoile d'autres facettes de l'histoire locale, l'histoire de Chartres, grâce aux découvertes faites lors des fouilles ou études menées par les archéologues de la ville de Chartres. Pour cette nouvelle émission, Bruno Bazin, responsable des fouilles menées sur le site de Saint-Martin-en-Val depuis 10 ans, nous fait le plaisir de présenter à nouveau le sanctuaire gallo-romain, mais aussi et surtout, Bruno, les dernières découvertes réalisées sur le site, notamment dans le quartier Saint-Brice, en lien avec ce grand édifice. Ce rendez-vous fait écho, d'ailleurs je le signale, à l'apparition du petit magazine Archéo, que vous pouvez découvrir donc aux accueils de l'Apostrophe, du Guichet Unique ou l'Office de Tourisme, et qui est consacré donc, pour cette édition au sanctuaire, et vous pourrez retrouver dedans de nombreuses photographies et illustrations dont nous ferons d'ailleurs l'évocation dans cette émission. Bonjour Bruno.
Bonjour Julia.
Alors Bruno, pour les auditeurs d'aujourd'hui qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité d'écouter l'émission précédente de l'an passé sur le sanctuaire gallo-romain, est-ce que vous pouvez nous rappeler à quelle époque et dans quel contexte historique a été construit cet édifice et où il se situe dans la ville antique ?
Alors on se trouve dans le quartier des Babours, du côté de Saint-Martin-en-Val, de l'église Saint-Martin-en-Val. On a affaire ici à un grand sanctuaire antique dont la construction date des années 70 après Jésus-Christ. C'est un édifice relativement grand qui se situe, on va dire, en périphérie de la ville. Mais c'est vrai que les occupations de la ville sont très très proches. Donc sur la base de départ où on pensait qu'il n'y avait pas d'occupation aux alentours, là on s'aperçoit avec les nouvelles découvertes et les nouveaux traitements des données que le sanctuaire n'est pas... si isolé que ça de la ville antique.
Donc on a un grand sanctuaire de cité à proximité des habitations et des quartiers gallo-romains. Et est-ce que l'on sait pourquoi cet édifice de culte a été construit à cet endroit ? Est-ce que le site présentait des avantages particuliers ?
Oui, on a affaire à un grand édifice de plus de 300 mètres par 190. Donc... plus de 6 hectares, on arrive même à 8 hectares, on le verra peut-être tout à l'heure. Donc c'est une surface immense et il faut de l'espace. La ville fait à peu près 240 hectares, elle occupe déjà tout le plateau autour de la cathédrale actuelle et se développe donc sur les rives droite et gauche de l'Eure. Il fallait trouver la place pour l'implanter. Là, on est vraiment dans une plaine alluviale en bas de coteau, donc c'est l'emplacement idéal. Et puis on se trouve aussi... en direction d'Orléans, c'est-à-dire en direction de la grande majorité du territoire de la cité des Carnutes. En fait.
Et est-ce que l'on sait si, dans cette cité des Carnutes, les habitants avaient déjà des habitudes ou des pratiques cultuelles à cet endroit où c'est un édifice, entre guillemets, sorti ex nihilo, posé là juste par l'intérêt du lieu? Ou est-ce qu'il y avait déjà des pratiques religieuses à cet endroit?
Alors on sait que ce qu'on a fouillé actuellement ne permet pas de répondre vraiment à cette question. On sait simplement qu'il n'y a pas d'occupation avant dans la zone qu'on a fouillée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas sur une autre portion du secteur occupé par le grand sanctuaire. Je rappelle 8 hectares, ce qui est énorme. On peut très bien avoir une occupation religieuse ou d'un autre ordre, simplement occupation d'habitation de tous les jours. Qui se situe dans la cour, dans d'autres endroits du sanctuaire.
Et justement, avant de rentrer un petit peu dans l'histoire du sanctuaire, est-ce que vous pouvez juste nous le décrire un petit peu ? Quelle est son architecture ? Est-ce qu'il, en quoi il est caractéristique peut-être d'une mode à la romaine ou au contraire, est-ce qu'il a une configuration particulière ?
Alors, on est tout à fait à la mode romaine, puisqu'on se trouve donc dans un édifice donc 300 mètres par 190 qui entoure une cour sacrée de 4,6 hectares à peu près. Cette cour est entourée par des galeries de circulation. Alors, on peut voir ça comme des galeries de cloître actuelles, c'est-à-dire d'un côté un mur plein avec quelques ouvertures qui permettent d'accéder ou des portes qui permettent d'accéder à d'autres pièces. Et dans la partie intérieure, des colonnes. qui permettent aussi d'accéder à la cour sacrée intérieure. L'édifice principal, c'est le temple. C'est là qu'on va entreposer la divinité à honorer, celle qui est la divinité principale. Et ce temple-là, en l'occurrence, habituellement, il se trouve dans la cour sacrée, à l'intérieur, souvent au milieu de la cour sacrée. Là, en l'occurrence, c'est une des nouveautés. Il se trouve reporté à l'ouest, dans la rue Vengeon, en fait, sur toute la longueur de la rue Vengeon.
Donc du coup, on imagine donc un immense rectangle de laquelle dépasse donc un autre rectangle qui est le temple, donc de 300 mètres sur 190 mètres de long pour l'ensemble du sanctuaire. Et est-ce qu'on a des exemples similaires ou comparables en gaulo-romaine ou est-ce qu'on peut être très fier du sanctuaire gallo-romain d'Autricum?
Alors de cette taille-là, on a quelques comparaisons limitées au vieil Évreux, par exemple. Le sanctuaire est beaucoup plus grand, hein. mais on a affaire à cette fois-ci à une ville vraiment cultuelle. On n'a pas simplement un simple sanctuaire. On est à 7 km de la ville antique qui est située à Évreux. Après, il faut aller chercher surtout des comparaisons en Afrique du Nord ou en Espagne, en Syrie aussi, où là, les temples sont de plus grande importance, plus grande taille. Donc oui, on peut dire que le sanctuaire de Saint-Martin est assez exceptionnel en Gaule, de par sa taille et probablement de par les cérémonies religieuses qui devaient s'y dérouler.
Oui, alors je rebondis justement, Bruno, quel type de cérémonie pratiquait-on dans ce type d'édifice ?
Alors différentes cérémonies religieuses, mais des cérémonies consacrées d'abord et principalement à la déesse qui était honorée dans le temple. On y reviendra peut-être tout à l'heure. On y pratiquait donc sous différentes formes, mais toujours très ritualisées, avec un ordre précis à réaliser de sacrifices, de libations, de déversements de vin, d'offrandes de type diverses, de la viande, des fruits, des statuettes, des statues, mais un ordre très précis. On peut imaginer, vu la taille du sanctuaire, qu'on est là dans un édifice qui accueille énormément de personnes. On a plus de 4 hectares pour la cour sacrée. On sait maintenant, d'après les analyses, qu'il n'est pas simplement réservé à la ville. D'ailleurs, son entrée principale est tournée de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il fait dos à la ville. Mais il est réservé à l'ensemble du territoire des Carnutes, hein, qui regroupe, pour visualiser un petit peu, l'Eure-et-Loire, la moitié du Loiret et une très grande partie du Loir-et-Cher.
Une immense région, du coup. Et là, vous avez fait donc ces observations sur le site, mais je crois ça, donc vous avez pu aussi observer vous allez nous le réexpliquer, lors de surveillance de réseau ou d'intervention chez des particuliers, d'autres pièces du puzzle. Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit résumé et présenter quelques interventions et quelles données du coup ça apporte dans vos recherches et quelles données ça apporte sur la connaissance plus générale du site?
Alors les interventions qu'on a réalisées, d'où l'importance toujours de bien suivre les différents réseaux, par exemple, de gaz, d'eau, de téléphone, ont été faits principalement aux alentours de la rue Vengeon, ce qui nous a permis, du coup, de bien situer le temple, donc l'édifice principal, chez des particuliers qui voulaient faire des extensions de maisons, construire des vérandas, donc ce qui a permis d'observer la limite nord, notamment, du temple. Passage de la fibre optique dans la rue Saint-Martin-Oval. Du coup, on a pu avoir la limite sud du temple. Observation dans toute la rue Vengeon de réseau téléphonique, ce qui nous a permis d'avoir la partie située au nord, probablement la limite nord du temple, avec des petites informations comme ça, c'est-à-dire sont principalement des murs construits en briques ou en silex. On arrive à restituer des données plus importantes du temple, notamment par comparaison et par aussi des calculs fait à partir de textes antiques sur l'architecture de l'époque, on arrive à restituer un temple qui fait 40 mètres de large et 80 mètres de long, ce qui est un édifice déjà relativement important. Il ne faut pas oublier que certains sanctuaires en Gaule ne font que cette taille-là, voire plus petit.
D'accord, sauf que là, je crois que le temple, est-ce que tout le monde y pénètre ou c'est une partie un peu sacrée et réservée, entre guillemets, aux prêtres ou aux pratiquants des cérémonies?
Non, le temple est réservé aux prêtres. Personne n'a le droit d'y pénétrer. D'ailleurs, certains, personnes qui s'occupent du culte n'ont pas le droit non plus d'y pénétrer. C'est réservé à certains prêtres qui peuvent rentrer à l'intérieur, puisque à l'intérieur, on a la statue de la divinité à honorer et quelques dépôts, quelques coffres aussi d'objets liturgiques qui sont entreposés dedans.
Alors j'imagine que pour construire un tel édifice, il faut énormément de matériaux. Est-ce qu'on a une idée d'où pouvaient provenir les pierres qui ont servi à l'édification de ce bâtiment?
Alors on sait, pareil, par des interventions aux alentours du temple, notamment rue de Reverdy, et au carrefour de la rue Saint-Brice-Saint-Martin, on a retrouvé en fait des fosses d'extraction, des puits d'extraction, donc des carrières tout simplement, où on extrayait à la fois de la grave, donc des petits cailloux pour faire les routes, des silex pour construire bien sûr les murs du sanctuaire, et puis de la craie aussi pour en faire ensuite mélanger à de l'eau, du mortier pour faire le lien entre les différents matériaux, silex, briques utilisés ou marbre, calcaire, etc.
Et tout ce qui était, on va dire, éléments d'architecture type colonne ou autre, est-ce que l'on sait d'où s'il provenait de la région? On a la pierre de Berchat qui est pas très loin. Est-ce que on peut faire un lien entre ces sites ou pas du tout? Ou c'était vraiment importé de régions plus lointaines?
Alors on sait qu'une partie des murs était construite avec de la pierre de Berchère, avec des petites pierres de forme rectangulaire. Mais la plupart des matériaux qui font l'architecture ne proviennent de la région parisienne, donc pas très très loin au sud de la région parisienne. Les analyses des matériaux nous permettent d'avoir cette conclusion.
Donc du coup, je suppose qu'il a fallu avoir un financement énorme de ce type de bâtiment. Qui est à l'origine de la construction de ces lieux de culte à l'époque antique?
Alors qui exactement, on ne le sait pas. Le financement, c'est sûr, il est apporté par des fonds privés et publics. On sait que c'est un sanctuaire de cité, donc civique, donc lié à l'organisation du territoire des Carnutes. Donc forcément, au niveau des cérémonies, financées par des fonds publics et des fonds de la ville d'Autricum, donc Chartres antique. Pour la construction, après, il faut bien voir que la majorité des constructions à l'époque romaine se font par des financements privés de notables, personnes relativement influentes qui vont apporter soit des fonds, soit faire réaliser des statues, soit faire importer du marbre, enfin différentes choses qui vont permettre d'édifier le sanctuaire.
Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'on a fait des observations un peu alentour, dans les rues adjacentes. Mais je crois que vous avez aussi utilisé une technique un peu nouvelle, des études de géophysique, pour observer un petit peu les abords du site. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus?
Oui, l'année dernière, on a profité de l'occasion d'un arrêt des fouilles pour des problèmes techniques de nappe phréatique qui remontaient, donc qui recouvraient les vestiges, le temps de trouver une solution, pour réaliser en fait ce qu'on appelle des prospections géophysiques. Elles ont été réalisées sur une grande partie des rues alentours, rue des Babours, rue Vengeon, rue Saint-Martin, aussi sur la plaine sportive, sur les terrains de rugby et sur la zone de l'hôpital actuel. Cette technique est simple, en fait, on va passer un petit appareil sur le sol qui va envoyer des ondes dans le sol, et en fonction des vestiges qui sont présents dans le sous-sol, s'il s'agit d'un creux ou d'un mur, les ondes vont se refléter différemment et vont revenir à l'appareil qui va enregistrer ces ondes. Ces ondes vont être traitées et vont permettre de définir si on a affaire à un mur, à une fosse ou à autre chose. Alors les résultats sont plutôt intéressants, principalement au nord du grand sanctuaire, puisqu'on a permis de mettre en évidence un autre édifice de très grande taille qui se développe vers le nord, avec une voie qui vient en façade, et encore un autre édifice encore plus au nord.
Donc en fait, on n'est vraiment pas sur un sanctuaire isolé, mais vraiment du coup un peu ancré dans la ville antique. On va le voir en deuxième partie d'émission. On va faire une petite pause musicale, ce qui sera l'occasion de voir avec Bruno, dans votre émission Histoire et Mémoire, les nouveaux bâtiments, les nouvelles découvertes faites autour du sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val.
Oh yeah.
De retour dans votre émission Histoire et Mémoire consacrée donc aujourd'hui aux nouvelles découvertes réalisées autour du sanctuaire gallo-romain d'Autricum, donc Chartres à l'époque antique. Je suis avec Bruno Bazin qui est responsable des fouilles archéologiques et qui nous dévoile aujourd'hui donc les résultats de ses recherches. Alors Bruno, depuis 2011, vous fouillez devant le sanctuaire, devant sa façade monumentale. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec certaines études, vous avez pu compléter vos découvertes. Alors qu'en est-il ?
Alors là, en façade du grand bâtiment, donc vers l'est, du côté de la plaine sportive, on a mis en évidence... Alors c'était déjà connu depuis 1995 par différentes observations de tranchées, mais là on a bien mis en évidence l'existence d'un nouveau bâtiment qui fait 25 mètres de côté, qui présente un aménagement avec des colonnes tout autour et qui est relié en fait à une galerie de circulation qui passait en façade du grand sanctuaire, et cette galerie est antérieure, c'est-à-dire que le bâtiment est venu s'implanter sur cette galerie, on a détruit une partie de la galerie, et on a posé le bâtiment, et on a gardé ce qui se trouvait au nord et au sud, pour le relier à cette galerie de circulation.
Parce que Bruno, les temples comme celui de Saint-Martin-en-Val ne sont pas, donc, comme on disait tout à l'heure, isolés, ils s'intègrent dans une ville, et qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme bâtiment autour d'un sanctuaire, et là, quelle serait la fonction de ce nouveau bâtiment que vous venez de citer ?
Alors les sanctuaires ne sont pas isolés, effectivement. Il y a différents autres bâtiments qui sont en périphérie immédiate, notamment parfois des thermes, puisque avant de pénétrer dans le sanctuaire, il faut faire les ablutions, il faut se laver aussi pour être propre. On a aussi souvent des cuisines qui viennent prendre place pour le sacrifice de la viande, et puis ensuite une partie de la viande qui est sortie, qui donc tombe dans la sphère privée et qui est revendue comme viande sacrifiée. D'accord. Et donc comme élément religieux. Et puis on peut aussi avoir des hôtelleries, hein, pour accueillir les pèlerins, bien sûr. Et là, en l'occurrence, ce qu'on a mis en évidence avec ce bâtiment, c'est qu'on aurait ici l'existence d'un grand hôtel, on va dire, puisqu'il fait 25 mètres de côté, ouais. qui permettrait de faire des sacrifices dans une petite pièce centrale, ouverte, avec un podium au fond. C'est ce qu'on a mis en évidence pendant les fouilles. Donc c'est là que seraient entreposés les autels ou les statues à honorer. Et donc on vient faire de nouvelles offrandes, d'autres sacrifices dans ce bâtiment. Donc on a à la fois le grand sanctuaire, mais il existe aussi d'autres bâtiments périphériques avec lesquels on peut sacrifier et honorer d'autres divinités que celle qui est la principale dans le grand sanctuaire.
Et là, est-ce que, sans rentrer forcément dans le tas, mais est-ce qu'on a quelques indices du Panthéon qui pouvait être honoré à Chartres ?
Alors, on a quelques indices. Les premières fouilles en 2006-2007 ont permis de sortir un petit élément attribué à Mercure, ce qu'on appelle un caducé, en fait, c'est un bâton entouré de serpents en argent, et c'est probable, en tout cas, qu'il faisait partie d'une statue, ça c'est sûr, mais c'est probable qu'on avait peut-être Mercure qui était honoré, pas en tant que divinité principale, mais en tant que divinité périphérique, ça existe. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles découvertes ont permis de mettre en évidence des éléments de statue qui seraient en relation avec Diane, un buste identifié, et un socle de statue avec un pied sur lequel on a une inscription, une dédicace donc à Apollon.
Donc Diane et Apollon, frères et sœurs, auraient pu donc être honorés dans ce petit édifice cultuel devant le sanctuaire. Est-ce que vous avez découvert d'autres éléments, par exemple des éléments d'architecture ou de décoration qui nous permettraient un peu d'imaginer comment ces bâtiments étaient décorés ?
Alors autant dans le grand sanctuaire on n'avait pas grand-chose, autant dans ce bâtiment on a beaucoup d'éléments d'architecture. On sait donc qu'il était entouré de colonnes, on sait qu'il y avait beaucoup de décorations de marbre qui provenaient donc du sud de la France, mais aussi de Turquie, d'Afrique du Nord, donc des importations de marbre relativement riches. On a des décorations de calcaire sur le sol, des pavages en calcaire. On a des éléments de mosaïque qui ont été retrouvés, mais on n'a pas les motifs qui étaient, pour l'instant en tout cas, qui étaient ancrés dans le sol. L'architecture, on a aussi quelques éléments qui couronnaient les colonnes. Et puis on a beaucoup d'éléments de toiture qui nous permettent de restituer la toiture de l'édifice. Donc ce qu'on appelle en termes plus scientifiques, on peut refaire l'architectonique, c'est-à-dire remonter le bâtiment avec les différents fragments d'architecture et de décoration qu'on a retrouvés sur le site.
D'ailleurs, dans ce numéro d'Archéo qu'on a cité tout à l'heure en début d'émission, vous avez une représentation, un crayonné de ce que pourrait être la façade de ce petit bâtiment supplémentaire. Mais je crois qu'il y a une autre découverte importante qui a été réalisée ces dernières années. C'est une fontaine, c'est ça? Un élément, un bassin comme...
Oui, juste pour revenir sur la représentation, c'est un crayonné qui a été fait à partir d'hypothèses, hein, donc ça reste hypothétique, ça changera, ça évoluera, ça y a d'ailleurs changé avec les nouvelles découvertes de la campagne de l'année dernière, cette année. En comparaison, pour vous donner une image de cet édifice, de sa façade, on peut voir la Madeleine par exemple, ou la Bourse de Paris. Ce sont des édifices qui présentent des colonnes en façade avec un tympan en haut et un podium et des escaliers qui permettent d'accéder directement à l'intérieur. Pour ce qui est du nouveau bâtiment, effectivement, sous la nappe phréatique, donc ça, c'est, ça pose problème. Ça veut dire aussi que l'eau n'était pas présente à l'époque antique, en tout cas pas à cette hauteur-là, qu'il y a eu des aménagements différents à différentes périodes, hein, médiévales, même contemporains.
Qui donc ont là, fait c'est important ce que vous dites, Bruno, c'est-à-dire que l'heure n'était peut-être pas située tout à fait au même endroit qu'on la connaît aujourd'hui. En tout cas là, le fait que la nappe remonte, c'est vraiment pour vous un handicap, c'est une petite parenthèse dans l'émission, mais pour comprendre aussi vos techniques et vos contraintes sur le terrain, vous pompez régulièrement l'eau pour pouvoir découvrir les vestiges.
C'est ça, effectivement, on est obligé d'avoir deux pompes en permanence qui évacuent l'eau un peu plus loin pour pouvoir dégager les vestiges qui, à l'époque, n'étaient pas sous l'eau. Et effectivement, l'heure, on peut imaginer que l'heure ne circulait pas au même endroit. Mais c'est surtout, à mon avis, des aménagements qui étaient faits sur l'heure, qui ont à l'époque médiévale et contemporain, on abusait aussi certains petits cours d'eau, certains affluents de l'heure, qui font que ça a modifié aussi toute la nappe phréatique, hein, sa présence ou non à certains endroits. Alors ce nouvel édifice, une fois donc dégagé de l'eau qui le recouvre, se présente sous la forme d'un grand bâtiment construit avec des murs probablement qui l'entourent. Pour l'instant, on n'a qu'un côté, un mur qui présente des excroissances. Ce mur est pas très haut, 1 mètre maxi, 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur, et je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'éléments complémentaires au-dessus. Il en sert en fait... un sol qui était recouvert de plaquages de calcaire. Ce mur, d'ailleurs, était recouvert aussi de marbre venant principalement de Turquie et de Gaule, donc richement décoré. Et à l'intérieur de ce sol, on a découvert une toute petite portion. On était en limite de fouille, hein, d'un bassin recouvert avec une margelle en marbre, recouvert de calcaire à l'intérieur. Donc on peut imaginer un bassin relativement grand, puisque l'édifice actuel, on a 12 mètres de dégagé de mur sur à peu près 8 mètres de sol à l'intérieur. Le bassin fait 3 mètres par 1 mètre pour l'instant, donc des petites dimensions. Mais on peut imaginer qu'il était relativement plus grand vu la taille de ce grand édifice.
Et donc, ce type de construction-là, ces bassins, ils font partie de la tradition romaine. Quels étaient leurs usages ?
Oui, on en trouve, ce sont des éléments décoratifs, des éléments qui permettent aussi de faire des offrandes. Moi, je pense que sur les petites excroissances sur le mur, on peut trouver en fait des statues, c'est possible, de divinités, dieu ou déesse périphérique à la principale encore une fois. Donc on vient y faire à la fois aussi des dévotions, hein, devant ces statues, faire des dépôts d'offrandes, et puis on vient probablement, alors à l'intérieur du bassin, qu'est-ce qu'on a? On ne le sait pas encore parce qu'il n'est pas dégagé. On vient peut-être jeter des pièces, des objets à l'intérieur en dévotion. Et puis, ça sert aussi d'éléments décoratifs. Là, si on est vraiment... C'est l'interprétation qu'on peut donner actuellement sur une fontaine monumentale. Ça pourra changer dans les prochaines années, voire l'année prochaine. Si on est vraiment là, on est dans un édifice aussi décoratif, ostentatoire, qui montre avant d'arriver dans le sanctuaire, puisqu'on est... sur un niveau beaucoup plus bas de circulation, l'importance de ce grand édifice qu'on a décrit tout à l'heure.
Et de l'ensemble du site.
Et de l'ensemble du site aussi.
Et du coup, est-ce que, lié à ces fontaines, on va dire, est-ce qu'il y a des divinités particulières qui sont associées à l'eau ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a des pratiques différenciées ?
Oui, il peut y en avoir. Alors en l'occurrence, nous, là, on ne sait pas encore, on a des éléments de sculpture qui ont été récupérés, fragmentés, dont on a quelques morceaux. On sait qu'on a des têtes qui pourraient être des têtes de divinités. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit lié à une divinité en lien avec de l'eau, quoi. Ce qu'on sait, c'est qu'on est dans une fontaine, on a un bassin, le reste est encore à découvrir.
Et est-ce que l'on sait combien de temps ces différents éléments, hein, le sanctuaire, l'édifice, le nouvel édifice et cette fontaine, ont été, entre guillemets, utilisés et connus des habitants chartrains ?
Alors non, on ne le sait pas encore parce qu'on vient de mettre en évidence donc, ce bâtiment. On sait qu'il est abandonné au troisième parce que dessus avaient été déposées plusieurs couches. Ce qu'on appelle des couches de démolition, c'est-à-dire qu'elles correspondaient à la fois à la démolition de l'hôtel dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on a rejeté en contrebas, puisqu'on est dans un niveau de circulation plus bas, donc à la fois sur le bassin et aux alentours. Et puis à l'intérieur du bassin, on avait aussi une partie de la démolition de ce bassin lui-même, de cette fontaine monumentale aussi. Donc ça, on sait, à partir des éléments qui ont été retrouvés à l'intérieur, de la céramique notamment, qu'on est au IIIe siècle, dans le courant du IIIe siècle pour sa démolition. Par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est aller fouiller en dessous du sol qu'on a dégagé pour avoir sa date de construction et trouver des éléments de type céramique, puisque c'est principalement à partir de la céramique qu'on arrive à dater les différentes constructions, qui auraient été abandonnées pendant la construction, en dessous, qui nous permettrait de dire à quelle période il est édifié.
Parce que ça serait peut-être lui aussi antérieur à la construction du grand sanctuaire, mais ça, il faut encore fouiller. Et là, les fouilles reprendront quand cette année ?
Alors, on reprend les fouilles bientôt, à partir du mois d'avril jusqu'à à peu près au mois de juin, début juillet, pour dégager, alors toujours dans les mêmes contraintes techniques, hein, dégager la suite de cette fontaine monumentale principalement, et fouiller les sols d'une partie de l'hôtel dont j'ai évoqué tout à l'heure.
Bruno, en plus des vestiges architecturaux, j'imagine que vous découvrez donc des objets, vous en avez cité quelques-uns, mais il y en a un là qui a retenu particulièrement votre attention.
Oui, cette année, il s'agit d'une inscription à Paternus, un affranchi de Eustius, qui a été découverte et qui nous permet de savoir que Apollon était bien honoré dans le sanctuaire et principalement, probablement, dans le petit bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a un épithète associé à lui qui est Vatumogon. Et Vatumogon est un épithète inédit que Apollon n'avait pas encore. Donc, on a une découverte exceptionnelle ici sur le sanctuaire.
Parce que du coup, Apollon a une caractéristique particulière, c'est ça ici ?
Épithète. Alors là, Vatumogon, en fait, ça veut dire Vatu, c'est un terme d'origine gauloise, hein, qui veut dire devin, en fait, un dieu devin. Donc là, il a cette fonction comme Apollon devin.
Donc une découverte exceptionnelle que donc je vous invite à retrouver dans le Archéo 24 consacré donc aux dernières découvertes sur le site de Saint-Martin-en-Val. N'oubliez pas que sur le site archéologie.chartres.fr ou dans le Votre Ville de février, vous pouvez retrouver toutes ces données. Moi, je vous invite donc à nous retrouver le mois prochain en compagnie de Laurent Coulon, donc directeur de l'archéologie à Chartres, et nous évoquerons ensemble les dernières découvertes menées par le service. À bientôt.